Ce matin, on a essayé de voir un peu donc les difficultés qui pouvaient s'opposer à notre joie. Alors, cet après-midi, je voudrais justement voir pourquoi il y a une joie de l'évangélisation. C'est quelque chose qu'on voudrait cerner un petit peu. Alors, c'est toujours important parfois de faire des parallélismes avec le marketing. Hein. Vous savez que le Seigneur nous dit quand même qu'on soit aussi astucieux que les fils des ténèbres. Hein. C'est peut-être qu'on l'est pas tellement, hein, nous les chrétiens. Alors, c'est vrai que je suis toujours frappé de voir la qualité du marketing de certains produits. Voilà. Et si on offrait la moitié pour la foi, ça serait déjà pas mal. Hein. Et donc, je pense que c'est quelque chose à quoi il faut veiller vraiment. Rendre notre foi attirante avec notre astuce, avec notre intelligence, etc. Hein? Le sourire de nos clients est notre meilleure publicité. Voilà, il faut que ça soit pour nous vrai aussi. Hein, donc. Alors justement pour ça, cette joie que nous recevons de la bonne nouvelle, c'est cette joie que nous voulons annoncer, et cette annonce qui produit en nous la joie. C'est ce cercle vertueux un petit peu que je voudrais voir avec vous cet après-midi. Donc, la rencontre avec le Seigneur qui produit la joie. Cette joie, nous la communiquons, à communiquer, hein, et puis cette communication qui nourrit en nous la joie à nouveau. Hein, c'est vraiment ce cercle vertueux qui est la substance de cette exhortation apostolique. Communication qui produit à la joie à nouveau. Donc, voilà, on a cette espèce de cercle vertueux et non pas vicieux. Donc ça, c'est très important de voir ça. Alors, je dis maintenant, mais il me semble qu'il y a une bonne image pour ça qui peut vous aider à comprendre un petit peu. C'est la fusée. La fusée, qu'est-ce qu'elle doit faire, une fusée? Elle doit s'élever. Quand on met un satellite sur orbite, hein, voilà, ben, la fusée doit s'élever. C'est-à-dire qu'elle doit vaincre la pesanteur. Hein, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de pesanteur, beaucoup de force qui s'exerce sur elle. Et puis, c'est pas si facile que ça. Hein. Et puis, elle doit sortir de l'atmosphère, etc. Hein. Et une fois qu'elle a rencontré une altitude suffisante, elle est en orbite. Donc, elle n'a plus à exercer de force. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose d'important aussi pour nous. Il y a toujours une sortie de soi qui est coûteuse, hein, mais après une espèce de légèreté, hein, que l'évangile nous permet de goûter et que l'évangélisation nous permet de goûter. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. La première des choses, donc, c'est d'essayer de voir la rencontre. Cette rencontre avec la bonne nouvelle. Alors, ça sera la première grande partie. Hein. Le risque dans notre foi, c'est la routine, hein, c'est de s'encrasser. Hein. Voilà, c'est petit à petit avoir des richesses sur lesquelles se dépose de la poussière de plus en plus. Ça peut être la richesse de l'Eucharistie, la richesse de la parole, la richesse de la vie en famille. Voilà, tout ça, c'est des choses. On n'arrive plus à voir que ce sont des biens, que ce sont des joies. La parole de Dieu, l'Évangile, ben, je l'ai écouté au moins 40 000 fois dans ma vie, donc voilà, j'ai plus rien à en tirer. Ah bah, c'est vrai, bah, ça s'encrasse, hein, ça s'encrasse. Et toute réforme, c'est de revenir à la chose dans sa jeunesse et sa vitalité. C'était la grande intuition aussi de la réforme, par exemple, du Concile de Trente. Hein. C'est une réforme, il ne faut pas nier aussi qu'elle a son aspect humaniste. Et quel était le mot d'ordre des humanistes? Ad fontes, hein, en latin, aux sources, allons aux sources. Il y avait trop de choses qui s'étaient accumulées. Donc, justement, par exemple, la parole de Dieu, on n'y avait plus accès. On a accès à des commentaires de commentaires de commentaires. Ben, elle ne nous vivifie plus. Voilà, donc, parfois aussi, faisons attention à nos livres de piété. Ils sont très bien, souvent, mais parfois, c'est des obstacles. Il faut avoir un contact direct avec la parole. Ça, c'est très important. Parce que la parole, elle est vivante. La parole, c'est Dieu. Et le livre de piété, c'est Monseigneur Machin, ou voilà, la sœur Truc, elles sont très bien, hein, mais c'est pas Dieu. Voilà, donc il faut toujours avoir cette référence à cette parole. Donc voilà, c'est pour lutter contre ce formalisme. Alors, c'est très important ce que nous dit le Saint-Père ici dans le numéro 1, numéro 3, mais vous l'avez en premier texte. J'invite chaque chrétien, en quelque situation et lieu qu'il se trouve, à renouveler aujourd'hui sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou à moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour et sans cesse. Que c'est important, une rencontre authentique et une recherche. Il n'y a pas de rencontre sans recherche. C'est-à-dire que, effectivement, si je prends la parole, parfois, elle ne va rien me dire. Surtout l'évangile d'aujourd'hui, par exemple, c'est des malédictions à tour de bras. Bon, d'accord. Mais si je prends la parole comme quelque chose qui me provoque et que je dois lutter avec elle, eh bien, ça c'est une expression que j'aime bien dire, que les pères de l'Église citent souvent, que la parole c'est comme une pierre. Il faut la frapper pour qu'il en jaillisse une étincelle. Voilà. Donc sinon, elle est insipide, elle est inintéressante comme un caillou. Dès qu'on la frappe avec son intelligence, eh bien, une force et une lumière en jaillit. Donc ça, c'est deux mots importants, la rencontre et la recherche, pour sortir un peu de ce formalisme. Un autre point pour essayer de vivre ce mystère de la rencontre, et que met beaucoup en valeur le pape François aussi, c'est la grande insistance qu'il a sur le kérigme. Le kérigme. Vous avez lu l'encyclique, l'exhortation apostolique ? Bon, plus ou moins. Hein, bon, alors, on va revenir un petit peu à... Alors, pardon pour ceux pour qui c'est déjà évident, mais rappelez un peu ce que c'est que le kérigme. Kérigme, pardon, mais il faut aller un peu au grec, là. Hein. Ça vient d'un mot grec qui est kérusso, qui veut dire crier, proclamer. C'était le cri du héros, hein, non pas du OS, mais celui, l'annonceur. Hein, c'était ça. Et l'annonceur criait une nouvelle, comme ça se faisait autrefois, on battait le tambour et puis on annonçait une nouvelle sur la place publique quand il n'y avait pas la télévision ni la radio. Alors, voilà, c'est ça l'annonceur. Et le kérigme, c'est ça. C'est cette annonce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi, pour nous. Et donc, c'est le premier point de l'évangélisation. Et dans un deuxième temps, on va passer à des choses, disons, qui ont plus trait à notre vie morale. Donc, l'enseignement moral de l'Église. C'est ce qu'on appellera la parénèse, hein, c'est-à-dire toutes les lois que va donner l'Église pour notre conduite, etc. Mais voilà, mais il faut toujours commencer par le premier point qui est cette bonne nouvelle. Et le drame, c'est justement quand on passe directement à la deuxième partie. Alors là, ça c'est terrible. Ça tue la foi. Ça tue notre foi chrétienne. Parce que Benoît XVI n'a cessé de le rappeler. Vraiment, notre religion, c'est une rencontre avec quelqu'un. Voilà. Donc ça c'est important. Donc, ce que je vous ai mis au texte suivant, nous avons redécouvert que dans la catéchèse aussi, alors là, il parle de la catéchèse, mais c'est évidemment applicable à tous les domaines, la première annonce au kérigme a un rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. Bon, je passe un petit peu plus loin. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce, Jésus-Christ t'aime et il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il faut laisser le Seigneur prononcer cette parole dans notre cœur, hein, lui donner le temps. Je t'aime et je me livre pour toi. J'ai offert toute ma vie pour toi. Et avoir ces temps où on lui permet de dire ça. Donc voilà, que le kérigme est d'abord pour nous. Avant que nous l'annoncions, il doit être reçu par nous. Il doit être sans cesse reçu. On ne peut pas vivre sans cette consolation immense du kérigme. Et voilà, donc ça c'est important. Donc avoir ce moment de cœur à cœur où avant de mettre en question notre vie, on va simplement s'offrir à l'amour du Seigneur qui s'offre à nous à travers sa mort et sa résurrection. Et puis il y a quelque chose qui est très beau, enfin moi je le conçois un petit peu pour ça, J'y viendrai tout à l'heure, mais je le dis déjà maintenant à propos du kérigme. Vous autres, sans doute, avez des missions de catéchèse, des missions d'annonce de la foi, etc. Donc, Jean-Paul II dit, François dit, dans la catéchèse aussi, le kérigme doit être tout le temps présent. C'est-à-dire que à votre petit enfant du catéchisme qui a 8 ans, 10 ans, peu importe, il faut qu'il sente qu'il est le bénéficiaire de la mort et de la résurrection du Christ dans sa vie, et qu'il l'expérimente ça, et que c'est pas quelque chose qu'on va dire au début et puis ensuite laisser tomber. Voilà, maintenant on va passer aux 10 commandements, on va passer aux 7 sacrements, voilà. Très bien. Donc, à chaque moment, le kérigme doit accompagner l'annonce de la foi. Est-ce que je me fais comprendre avec ça, hein? Et donc, il y a quelque chose de très important, c'est que ce kérigme, comme il est dit ici, il doit passer par l'expérience de l'amour. Le petit enfant, ça ne lui dit rien que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour lui. Qu'est-ce que vous voulez que ça lui dise? Bon. Mais il sentira votre affection, et une affection qui vient d'en haut, finalement. Il faut croire à cette charité qui est dans notre cœur, qui dépasse simplement la tendresse naturelle que vous pouvez avoir pour les enfants. Non, vous l'aimez au nom du Seigneur. Et finalement, ça lui ouvre le cœur, ça, extraordinairement. Parce que le Seigneur dépose cette charité par la vertu de sa passion et de sa résurrection dans votre cœur. Ça, c'est très important. Et quand on aime, on est témoin de la résurrection du Seigneur. Mystérieusement, c'est très confus, c'est peut-être pas tout à fait net, etc. Mais en tout cas, c'est ça l'arrière-fond. Est-ce que je me fais comprendre avec ça? Ça, c'est capital, je crois. À travers notre amour, nous annonçons la résurrection. Ce que l'autre traduction du kérigme, c'est Jésus-Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Il m'a aimé. Il m'a aimé, c'est ça. Et je le sens. Et pour ça, il s'est livré pour moi. Et quand on veut faire comprendre ça à un enfant, à un jeune dans la rue, à un SDF à qui on va annoncer la parole, ça va passer par notre tendresse, par notre affection, qui vient d'en haut. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Donc, renouveler cette rencontre, qu'on a avec le Seigneur. Voilà. Et cette expérience profonde qu'on fait de l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est ce qui va faire notre fidélité. Si on ne fait pas une expérience profonde de l'amour de Dieu, on est fragile. On a été frappé quand même, par exemple, certains théologiens comme Luigi Giussani, qui a fondé le mouvement Communion Libération, étaient très frappés de la situation de l'Église en Italie avant le Concile, dans les années 50-60. Il y avait une pratique extrêmement importante, une vitalité extérieure, mais il disait, ça c'est fragile, parce qu'il y a peu d'expérience vitale du Seigneur. Évidemment, les événements lui ont donné raison, parce que la désaffection extrême qui s'est produite ensuite dans les années 60-70, on la connaît. Donc, une expérience très profonde de foi, c'est capital pour nous-mêmes, de vraiment avoir cette amitié avec le Seigneur. Alors ça passe par l'oraison quotidienne, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, par viser à l'excellence dans notre relation avec les Seigneurs. Viser à l'excellence. Ça ne veut pas dire qu'on sera excellent, tranquillisons-nous, c'est l'excellence du moyen. Viser à l'excellence, voilà, c'est-à-dire que vraiment, ma méditation de la parole quotidienne, oui, quotidienne, on mange tous les jours, on respire tous les jours, alors pourquoi la parole, on ferait pas la même chose avec elle, Voilà, donc, cette excellence dans cette méditation, oui, c'est parfois difficile, mais il le faut. Nous investissons parfois trop peu, nous les catholiques, dans notre vie spirituelle, quand on compare avec d'autres religions. Quand on voit les juifs, pour eux, un des piliers de leur foi, c'est l'étude de la parole. Voilà. Puissions avoir ce souci aussi d'étudier la parole, d'étudier notre foi, de nous en enthousiasmer et qu'elle devienne vie en nous. Sinon, c'est une foi un petit peu morte. Voilà. Voilà, ça c'est donc toujours dans cette rencontre, donc contre le formalisme, ensuite ce kérig, cette rencontre très profonde, c'est cet amour du Seigneur qui passe par sa croix et sa résurrection pour moi, que je peux traduire aussi. Et puis, un autre point qui est important, c'est que il s'agit pour nous toujours, dans cette rencontre, de rencontrer la joie déjà présente. Rencontrer la joie. Ouais, ça me semble très important. J'explique un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que, dans notre foi catholique, la joie, je n'ai pas à la fabriquer. La joie, elle est là. La joie, c'est une personne. Et il s'agit pour moi de, finalement, d'y avoir accès. On peut dire un petit peu de la joie, ce que disait Jacob du Seigneur, le Seigneur était en ce lieu et je ne le savais pas. La joie était là et je ne le savais pas. Je pense que c'est très important, alors évidemment, François va en parler, nous sommes déjà propriétaires de cette joie. J'en ai déjà un petit peu parlé pas ce matin, je vais pas y insister, mais le Seigneur nous dit, et il le dira dans un autre de ces passages, « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » C'est-à-dire que cette joie, elle nous est offerte de manière radicale. Hein. C'est le texte suivant que je vous ai mis. « Cependant, l'invitation la plus contagieuse est peut-être celle du prophète Sophonie, voyez où on est, le numéro 4, hein, qui nous montre Dieu lui-même comme un centre lumineux de fête et de joie qui veut communiquer à son peuple ce cri salvifique. Relire ce texte me remplit de joie. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. » Voilà. Le Seigneur est au milieu de toi. Voilà. Alors ça, je crois que c'est essentiel de comprendre un petit peu cela. Ça peut être un petit peu l'obstacle de l'optimisme que nous voyons ce matin. Nous n'avons pas à être optimistes, nous avons à être réalistes, qui est différent. Justement, je l'ai évoqué ce matin. Et finalement, où est le lieu où nous allons puiser la joie? C'est l'Église. L'Église, cette espèce de réservoir de joie. Alors, ce serait bien si ça pouvait être notre définition de l'Église. L'Église, c'est le réservoir de la joie. Bon, ben d'accord. On va y croire. Bon. Alors, vous savez que les auteurs, les artistes sont d'une lucidité extraordinaire. Parfois, ils vont beaucoup plus loin que les théologiens. Alors, c'est pour ça que je vous ai remis un petit bout de Bernanos. Là. Bernanos, c'est le discours du curé de Torcy, au curé de campagne. Vous avez peut-être lu le journal d'un curé de campagne, qui est un très très beau livre. Hein, c'est magnifique. Hein. Alors, on a ce curé un peu maladif, voilà. Et puis, alors qu'il va se faire, qui est nommé dans une paroisse où on l'aime pas beaucoup, où c'est difficile, où les petites filles au catéchisme se moquent de lui, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Et alors, il va se faire remonter le moral un peu par ce brave curé de Torcy, qui est ces curés comme on les aime, là, réaliste, les pieds sur terre, un peu grande gueule, mais avec un réalisme et une foi indéracinable. Et alors, voilà ce qu'il dit. À propos de la joie, alors vous l'avez, l'Église dispose de la joie. L'Église dispose de la joie, de toute la part de joie réservée à ce triste monde. Ce que vous avez fait contre elle, contre l'Église, vous l'avez fait contre la joie. Est-ce que vous empêche, moi, de calculer la précession des équinoxes ou de désintégrer les atomes? Voilà, il parle de la technique d'aujourd'hui. Mais que vous servirez de fabriquer la vie même si vous avez perdu le sens de la vie. Voilà. Donc il y a un grand discours comme ça, que c'est important de dire, justement, l'Église doit retrouver quel est ce centre, cette espèce de réservoir de joie, cet asile de la joie. Moi, ça me frappe quand même. Au niveau de la vitalité de l'Église, on dit souvent que notre société est essoufflée, etc. Mais quelle vitalité, quelle jeunesse dans l'Église! Quelle source de renouveau perpétuel, hein, dans la pensée, dans les initiatives, etc. Hein. Elle est toujours jeune, hein. Elle est toujours joyeuse, vraiment. Hein. En tant qu'elle est église, hein, en tant qu'elle est constituée de pécheurs, elle n'est pas toujours jeune ni jolie, d'accord, hein. Voilà. Mais en tant qu'elle est église immaculée, sainte, elle est joyeuse. Elle participe, par définition, de la joie du Christ ressuscité à qui elle est unie, et dont elle est le corps. Hein. Voilà pourquoi l'Église est joyeuse. Donc voilà, plus nous nous unissons à l'Église, d'une certaine manière, par les sacrements, par cette vie spirituelle profonde, plus nous sommes dans la joie. Voilà. Ouais, ça me semble très important aussi. Donc ça implique pour nous toujours un effort de nous unir à l'Église. C'est pas étonnant que les gens soient un peu tristes en disant « Oui, vous savez, l'Église, mais elle est ici, elle est là. Oui, moi, vous savez, telle chose de l'Église, je suis pas très d'accord. Mais tu fais qu'un avec l'Église, sinon tu te prives de sa joie. Si tu commences à faire le tri, eh ben alors là, on n'a pas fini. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas souhaiter sa réforme, bien sûr, mais la souhaiter intelligemment, en faisant corps avec elle profondément. Sinon, on se prive de la joie et on est amer. On est amer. Il y a une manière de réformer l'Église depuis l'intérieur, comme l'a fait un saint François d'Assise. Il y a une manière de le faire depuis l'extérieur, comme un Pierre Valdo à l'époque. Voilà. Eh ben, on n'est pas forcément joyeux, on est dans la rancœur, on est dans l'accusation. Voilà. Donc ça me semble très important, parce qu'en France, on est quand même sacrément critique, plus que dans d'autres pays, peut-être. Alors voilà, la pauvre Église, parfois, on prend bien des coups. Alors, je pense que c'est quelque chose où on a toujours à être fier de notre mère, vraiment, fier et heureux, de ce qu'elle est, et de la joie qu'elle nous donne. Voilà. Ça va ? Donc c'était un petit peu ce premier grand point que je voulais évoquer, donc cette rencontre avec le Christ ressuscité, que nous devons vivifier, donc sortir de la routine, de vivre le kérigme à chaque étape de notre formation, de notre vie, et puis se dire que justement, voilà, cette rencontre, c'est trouver la joie qui est déjà présente dans l'Église, comme un trésor, comme dit la parabole, qui est enfoui. Il faut creuser un petit peu pour le retrouver et pour que notre joie soit vivifiée. Voilà, donc ça, c'était le premier grand point que je voulais évoquer avec vous. Alors, on va évoquer le deuxième maintenant. Alors, voilà, maintenant, cette joie, il va falloir la communiquer. Bon, il va falloir, c'est pas tellement le problème. On va la communiquer. Communiquer, c'est le deuxième grand axe que je voudrais évoquer avec vous. C'est quelque chose d'importance là, et justement, je n'ai pas forcément utilisé une expression très heureuse en disant il faut la communiquer. Voilà, non, la joie se communique par elle-même. Parce que c'est un principe là aussi métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a un ordre des choses. Quand je découvre quelque chose de bon, je le partage. Alors, j'étais au Liban il y a quelques mois là, c'est très chouette en fait la manière dont ça se passe, par exemple, pour prendre un exemple très concret. Quand dans un immeuble, on a fait un bon plat, qu'est-ce qu'on fait ? On va frapper à la porte du voisin pour lui en apporter un bout. Voilà, c'est très beau, hein. Vous voyez, à partir de quelque chose extrêmement concret pour dire, voilà, même au niveau de la cuisine, on va partager cela. Vous êtes allé voir un bon film, tout de suite vous allez dire, vas-y, écoute, c'est vraiment super, c'est vraiment important. Je sais pas si vous avez vu des bons films dernièrement, mais il y en a. Voilà. Donc, ça, ce sont des joies de la terre, hein. Mais voilà, ce qu'on fait avec les joies de la terre, ça serait souhaitable que finalement il y ait une espèce de continuité avec les joies du ciel, avec la joie du salut, avec la joie de l'amour de Dieu qui est dans notre cœur, etc. Parce que le bien tend toujours à se communiquer, c'est le numéro 9, c'est le texte suivant que je vous ai mis. Je vous lis donc ce numéro 9 du pape François. Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique de vérité et de beauté cherche par elle-même son expansion. Et chaque personne qui vit une profonde libération acquiert aussi une plus grande sensibilité devant les autres. Lorsqu'on le communique, le bien s'enracine et se développe. Voilà. Le bien tend toujours à se communiquer. Alors, il y a une formule latine qui dit ça. Le bien est diffusif de soi. Donc, ça, c'est très important de voir que quand on reçoit ces biens du salut, ils portent en eux-mêmes un dynamisme. Voilà, la mission, c'est pas un espèce de truc qu'on vient rajouter après. comme un commandement. Maintenant, tu vas annoncer, hein, tu as reçu le salut, maintenant tu l'annonces, hein, parce que c'est comme ça, hein, et c'est pas autrement. Bon. Pauvre de nous, si c'était ça. La bonne nouvelle, c'est justement comme ce feu qui a tendance à se répandre. Voilà. Alors, très concrètement, cette joie, elle va être combattue, parce qu'on sait que, malgré tout, c'est pas aussi facile que pour la bonne cuisine. Qu'une certaine unanimité, un bon plat, on est tous plus ou moins d'accord. On sait quand même que la réception de l'évangile est parasitée par bien des facteurs. Et c'est là qu'il faut avoir l'audace, en disant, malgré tout, comme quand on a des papilles gustatives bien faites, on aime ce qui est bon, quand on a un cœur pas trop pervers, on aime la bonne nouvelle. Et ça, je crois que c'est très important de dire, elle est attendue. Elle est attendue. Beaucoup plus que ce qu'on peut croire. On voit aujourd'hui, on en parlait en communauté, aujourd'hui comme la vie est finalement de mieux en mieux reçue. Et les gens nous encouragent, même si peut-être que ce n'est pas des piliers d'église, hein, mais en tout cas ça les interpelle. Moi je l'ai vu à plus d'une reprise, c'est vrai. Hein. Et puis les contacts que ça nous permet de lier, c'est extraordinaire. C'est que nous sommes le signe, une petite fenêtre sur le ciel, avec toute la misère qu'on peut avoir, voilà, je le dis maintenant pour m'en débarrasser, hein, il n'y a aucun souci avec ça, mais malgré tout, la vie, c'est une petite fenêtre sur le ciel, et les gens ont soif du ciel. Donc, il faut avoir cette foi aussi, dans cette attente, que les gens attendent la bonne nouvelle, comme je l'ai dit ce matin à propos de Cencini, nous sommes dans un régime pré-chrétien. Donc voilà, ça c'est très important, un bien qui tente à se répandre, mais que aussi va être reçu et qui est attendu. Voilà, qui est attendu, d'une certaine manière. Alors, tout cela, ça va nécessiter, donc ça c'est un bien qui se communique, premier point.
Alors, je vous le mets en latin, ça fait chic. Voilà. Bonum diffusivum. Oui, le bien se communique. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est l'adage latin. Voilà. Ça, c'est... Deuxième point que je veux voir maintenant, c'est que il y a, malgré tout, comme je disais, un isolement à rompre.
Parce que pour communiquer quelque chose, il faut rentrer en contact avec les autres. Ça paraît tout bête, hein, mais pour aller porter son plat de couscous. Ouais, couscous, c'est plutôt marocain là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils auraient de... Du taboulé, exactement. Voilà, du taboulé. Ouais, faut frapper. Hein, faut frapper à la porte. Hein, c'est la première étape. Voilà. Donc, autrement dit, susciter une rencontre. Et ça. Ben, on ne peut pas dire autre chose, mais on est quand même dans une situation pas mal individualiste chez nous. Hein. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Il faut prendre la culture à rebours. Et la tentation de notre époque, elle va dans le sens inverse. C'est la tentation de revenir au nid, hein, pour parler en français, et du cocooning, pour parler en franglais. Quoi. Donc, c'est de revenir à un cocon. Et chaque époque de crise, c'est ça, on revient à un cocon. Hein, je pensais à l'époque féodale, enfin un cocon, c'est pas tellement un cocon confortable là-bas, mais malgré tout, si vous voyez l'époque féodale, c'est l'espace commun qui devient un espace menaçant. Là où il y avait des voies qui allaient d'un bout à l'autre de l'Empire romain, vous n'avez plus que du danger, des pillards, de la guerre. Donc on se replie. On se replie dans le château, on se replie chez soi. Et donc on va perdre une vitalité. On va perdre un dynamisme aussi spirituel. Donc l'Église va prendre le relais, bien évidemment, magnifiquement, c'est extraordinaire au moment des temps barbares, comment l'Église a pris le relais. Mais c'est un peu cela qui se passe aujourd'hui. On va délaisser l'espace social. Vous le savez très bien, tous les lieux sociaux sont quand même relativement délaissés. On parle de la perte des syndicats aussi, etc. Bon, il y avait des grandes luttes idéologiques, peut-être, peu importe, ouvrières, etc., dans les années 50, etc. Maintenant, on n'en est plus du tout là. Hein. C'est une autre problématique qui est la nôtre. On a délaissé l'espace social et on a rejoint plutôt un espace privé. Donc ça aussi c'est important. De savoir que on n'est pas forcément dans un contexte très porteur, mais qu'on doit donc inverser une tendance. Alors, il faut retrouver cette culture de la rencontre sur laquelle ne cesse d'insister le Saint-Père. Cette culture de la rencontre, c'est l'étape préliminaire à l'évangélisation, hein, si l'on peut dire. Alors, ça, c'est très très important, avoir ce goût de la rencontre. C'est vrai, ben, dire bonjour. C'est saut, mais à la poste, on rentre, on peut dire bonjour. Enfin, ça ne coûte rien. Parfois, les gens nous regardent avec des yeux ronds. Il me dit bonjour, mais je suis de sa famille, à lui, non. Ben, il me dit bonjour quand même, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Alors, au départ, ça surprend un peu. Pourquoi pas dans un compartiment de train, hein, ou alors dans le métro, quand on sourit, alors là, les gens, mais il est fou, celui-là, il est fou. Que ça nous fait du bien. Hein. Mais vraiment, en revenant d'Argentine, là, on prend le collectivo, c'est-à-dire le bus. Alors, ils sont lents, les bus. Hein. Pour faire 400 km, on passe 12 heures. On a le temps de se connaître. Hein. Voilà. Donc, mais ça, c'est important quand même. On parle avec son voisin. Des choses toutes bêtes comme ça. Hein. Ben, oui, on est côte à côte. Hein. Un petit mot. Hein. Vous êtes d'où, etc. Mais pas hésiter. Hein. Pas hésiter à cela. Alors, on en a un frère qui fait très bien. Ça, chez nous, c'est le frère Jean-Pierre. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais alors là, Alsace au plat, hein, on y va, là. Et puis, donc... et parfois c'est l'annonce directe, il n'y a même pas de rencontre, hein, c'est l'annonce de l'évangile directement. Mais en tout cas, ça je crois que c'est très important, hein, qu'on puisse avoir cette espèce de simplicité. Alors je vous ai mis ici aussi ce beau texte dont je vous ai parlé ce matin de Rio, de la rencontre avec les évêques brésiliens à Rio. Ça va, est-ce que je ne vais pas trop vite, pardon, parce que Claire m'a dit que j'étais un peu rapide, alors je ne veux pas non plus... voilà, ça va, vous me dites, hein, vous levez la main, vous n'hésitez pas. Donc, le texte des évêques de Rio, qui est le suivant. Donc, justement, les gens s'en vont parce qu'ils n'ont pas forcément reçu dans l'Église cet espace de rencontre. Et donc, le Saint-Père va lire la rencontre d'Emmaüs à cette lumière-là, en disant justement qu'ils quittent Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils quittent l'Église, hein, l'Église qui n'a pas été le lieu qui a répondu à leur attente. Relisons à cette lumière, encore une fois, l'épisode d'Emmaüs. Les deux disciples s'enfuient de Jérusalem. Oui, on est. Hein. Ils s'éloignent de la nullité de Dieu. Ils sont scandalisés par l'échec du Messie, en qui ils avaient espéré, et qui maintenant apparaît irrémédiablement vaincu, humilié, même après le troisième jour. Le mystère difficile de ceux qui quittent l'Église, des personnes qui, après s'être laissées illusionner par d'autres propositions, retiennent que désormais l'Église, leur Jérusalem, ne peut plus offrir quelque chose de significatif et d'important. Et alors, ils s'en vont, par des chemins seuls avec leurs désillusions. Peut-être l'Église est-elle apparue trop faible, trop éloignée de leurs besoins, trop pauvre pour répondre à leurs inquiétudes, trop froide dans leur contact, trop auto-référentielle, peut-être prisonnière de ces langages rigides, peut-être que le monde semble avoir fait de l'Église comme une survivance du passé, insuffisante pour des questions nouvelles. Peut-être l'Église avait-elle des réponses pour l'enfance de l'homme, mais non pour son âge adulte. Le fait est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont comme les deux disciples d'Emmaüs. Non seulement ceux qui cherchent des réponses dans des nouveaux et répandus groupes religieux, mais aussi ceux qui semblent désormais sans Dieu, que ce soit en théorie ou en pratique. Alors, face à cette situation, que faire? Il faut une Église qui n'ait pas peur de sortir dans leur nuit. Il faut une Église capable de croiser leur route. Il faut une Église en mesure de s'insérer dans leur conversation. Il faut une Église qui sache dialoguer avec ses disciples qui, en s'enfuyant de Jérusalem, errent sans but, seuls avec leur désenchantement, avec la désillusion d'un christianisme considéré comme un terrain stérile, infécond, incapable de donner du sens. Voilà, donc une Église qui n'ait pas peur de sortir. Voilà, là, c'est très important parce que c'est le Christ qui a fait ça, le Christ d'Emmaüs. Alors, c'est très très beau quand on voit un peu le texte grec, excusez-moi d'aller au grec encore, mais dans les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce que font les disciples? Vous vous souvenez? Ils se promènent et puis tournent dos à Jérusalem. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent ensemble. Et ils parlent ensemble de quoi? De leur malheur. Voilà. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il fait, avec tout le respect que je lui ai, il fait l'imbécile. De quoi parliez-vous? C'est très bien. Parce qu'il veut qu'ils parlent de leur malheur. Il veut rentrer là-dedans. Et si j'évoquais les Grecs, c'est que le texte grec ici, c'est le verbe qui dit quand ils parlent ensemble, c'est homilein, qui a donné le mot homélie. C'est-à-dire que c'est un entretien familier. Voilà, il faut partir de là. L'homélie doit être ça. Un entretien familier à partir de nos réalités. C'est ça la rencontre. C'est partir de nos réalités. Voilà, donc, en Argentine, c'est de quelle équipe t'es supporter avec les jeunes? Alors, ça n'y coupait pas, là. Voilà, c'est des fanats de football, donc ben, voilà, il fallait commencer avec ça, peut-être. Après, on pouvait peut-être. Alors, ça va de 0 à 99 ans, ça marche à tous les coups, ça là-bas. Ici, on est un peu moins fanat de football, mais bon, il y a quand même pas mal de choses, de points sur lesquels on peut aborder la conversation. Voilà, donc c'est important, et de proche en proche, justement, rentrer dans la vie des gens, comme le Christ lui-même l'a fait par la conversation, et ensuite en franchissant le seuil de cette maison. Là où il se manifeste, c'est dans la maison des pèlerins d'Emmaüs, c'est pas ailleurs. C'est-à-dire dans leur vie, quand on rentre dans la maison de quelqu'un, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Une maison, c'est un peu de moi prolongé sur mes murs, sur ma façon de vivre, etc. Voilà, voilà là où le Christ rentre. Voilà là où il annonce la bonne nouvelle. En expliquant justement l'écriture ensuite. Mais il a commencé par cette, justement, cette question. Voilà. Alors justement, ça c'est quelque chose d'important. Alors je l'ai un peu évoqué ce matin, justement, cette culture de la rencontre. Le pape a un petit peu un autre mot, c'est un petit peu sur... dans le même contexte, si je puis dire, il va évoquer à plusieurs reprises la révolution de la tendresse. Alors, je vous le mets ce mot, on peut le comprendre différemment, bien sûr. Mais...
Je lui cède la paternité de son concept, hein, mais elle est intéressante.
C'est-à-dire que ça doit être quand même le signe distinctif des chrétiens, la tendresse. Pourquoi? Parce que, en devenant froid, on redevient comme des païens. Vous savez que saint Paul, c'est le critère qu'il donne. Les païens sont des gens sans discernement et sans tendresse. Ça, c'est dans la lettre aux Romains. Voilà. La tendresse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une manière de faire la synthèse entre un amour spirituel et un amour charnel. C'est une manière de vivre l'incarnation. C'est la manière dont le Christ a vécu l'amour. Il a un amour éternel, puisqu'il est Dieu, etc., mais il l'exprime très concrètement. Il l'exprime en bénissant les enfants, en les embrassant, dit le texte. Il faut voir ce que c'est, embrasser un enfant à l'époque du Christ. L'enfant, c'était un moins que rien, il mangeait avec les chiens. Enfin, peut-être pas toujours, mais c'était pas loin de ça quand même. Donc quand il fait ça, c'est un geste vraiment où il les valorise. Et puis sa tendresse avec Marthe et Marie, etc. Hein, voilà, donc on pourrait voir ça. Mais ça c'est important. C'est-à-dire que la capacité de pouvoir transmettre un amour, évidemment en tenant compte, il ne faut pas être naïf, des filtres de notre société. On parle d'une société donnée. Ici, je suis bien conscient qu'on n'est pas dans un pays du Sud, etc. Donc, il faut tenir compte de la manière dont notre message peut être compris. Voilà, c'est vrai que c'est très important aussi. On ne peut pas avoir le même langage avec tout le monde, bien évidemment. Mais c'est ce que je vous ai mis au numéro... Non, je crois que vous ne l'avez pas. Attendez, je regarde... Non, ben je vous le cite, je ne vous l'avais pas. L'idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de confiance permanent, la peur d'être envahi, les comportements défensifs que le monde actuel nous impose. Voilà. Qu'on sache jeter un pont par-dessus tout cela. C'est le défi auquel nous adresse le pape. Beaucoup essaient de fuir les autres pour une vie privée confortable, pour le cercle restreint des plus intimes, et renoncent au réalisme de la dimension sociale collective de l'Église, voilà, de l'Évangile. Voilà, donc ça c'est important. Ce que je voulais un peu vous évoquer par rapport à ça. Voilà, alors autrement dit, permettre de communiquer cette joie à travers justement l'espèce de dynamisme intérieur qu'on a évoqué, le bien se communique par lui-même. Ensuite, c'est rompre un isolement et le faire justement à travers une qualité de contact qui puisse permettre de faire en sorte que l'autre se sache comme regardé avec bienveillance, et donc à travers la tendresse, pour reprendre le mot du Saint-Père. Voilà. Alors, je veux faire un petit peu pas de plus, si vous le voulez bien. Donc, on va voir un peu, si vous voulez, donc, ce que j'appellerais un peu l'effet rétroactif. L'effet rétroactif de l'évangélisation. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai pas évoqué toutes les problématiques de l'annonce, etc. C'est pas tellement mon propos. Je vois plutôt en quoi l'évangélisation nous donne la joie. C'est plutôt ça que je vois. Troisième grand point. Alors, je vais essayer de m'expliquer un peu ce que je veux dire dans ce cas. Alors, il faut remettre grand 3, je me perds un peu dans les numéros, mais vous voyez où on en est, ça va. Bien. C'est qu'on peut avoir tendance à dire si je me donne, il va moins en rester pour moi. Voilà, c'est l'idée qu'on a, une espèce de capital qui va en diminuant. Voilà, évidemment, ça c'est valable pour les biens matériels, mais c'est tout le contraire qui se passe pour les biens spirituels. C'est que plus je les donne et plus je les possède. Ça c'est important et c'est ce qui fait la racine de l'évangélisation et de notre vie de foi. Alors on va essayer de voir un petit peu justement ce processus comme à chaque fois un surcroît de vie, de joie, un surcroît de foi aussi. Voilà un petit peu ce avec quoi je voudrais terminer cette troisième grande partie. Donc la première des choses, c'est que quand on évangélise, on en ressent comme une vie nouvelle. Simplement, alors, un surcroît de vie, si je puis dire.
Un surcroît de vie.
Ça c'est très important. Le Saint-Père, ici, veut proposer une réforme de l'Église, c'est clair. Mais il ne va pas simplement réformer la Curie ou la Banque du Vatican, il a déjà pas mal de travail avec tout ça. La réforme disciplinaire, ça ne suffit pas. C'est pas ça. Comment l'Église doit se réformer en étant ce qu'elle est, c'est-à-dire missionnaire, en sortant d'elle-même. Si l'Église reste en elle-même, elle devient malade. Vous vous souvenez de cette phrase célèbre ? Mieux vaut une Église accidentée qu'une Église malade. Une Église accidentée, c'est une Église qui sort, qui se prend parfois peut-être des blessures. Mais une Église malade, c'est quand on reste chez soi et qu'on attrape tous les miasmes qui sont chez soi. Et ça, c'est très vrai pour une communauté religieuse. Si on n'a pas de mission, alors là, on va se bouffer le nez, mais alors là, dans les grandes largeurs, ça, aucun souci. Mais si on a une fin commune, qu'est-ce qu'on relativise de choses, alors là, oh là là, que ça fait du bien. Et je pense que c'est applicable justement aux paroisses. Par exemple, les paroisses, si elles évangélisent, eh ben, elles vont retrouver une vitalité, et elles vont arrêter de consommer l'énergie à faire des guerres de clochers ou de chorales ou d'équipes liturgiques, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. C'est trop quotidien et trop réaliste parfois, mais ça c'est très important. C'est vrai à tous les niveaux, au niveau de la famille. Bon, la famille d'abord doit vraiment. Peut-être que la famille, la priorité est apportée un petit peu ailleurs, justement. La famille, elle doit peut-être se retrouver vraiment comme communauté, retrouver la joie d'être communauté, parce qu'elle est souvent très éclatée. Donc, ça, c'est un peu une autre problématique. Mais en tout cas, ça, c'est très important. Alors, c'est le numéro 10 que je vous ai mis, là. Il nous a proposé de vivre à un niveau supérieur. Vous voyez où on en est, un niveau supérieur. Et pas pour autant avec une intensité moindre. La vie augmente quand elle est donnée et elle s'affaiblit dans l'isolement et l'aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres. Quelle phrase porte celle-ci ? La vie s'accroît quand on la donne. Voilà. Je crois que c'est quelque chose dont on fait l'expérience à chacun d'entre nous. Bien. C'est cela finalement la mission, hein, termine le Saint-Père. Et il termine avec ces phrases célèbres qui ont fait grincer les dents. Hein. Un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d'enterrement, hein, de carême sans Pâques, voilà, etc. Alors, il a multiplié les expressions, hein, à loisir. Une tête de cornichon au vinaigre, alors ça il fallait le trouver quand même. Cara de vinagre en espagnol, hein, c'est bon. D'accord. Bon, alors il a dit ça même au supérieur majeur. Alors, ne soyez pas des vieilles filles. Alors, je sais pas comment ça va passer, mais bon. Bref, il a pas les deux pieds dans le même savon. Alors, faut savoir que c'est très argentin. Hein. Les Argentins, ils vous envoient du lourd comme ça, vraiment des gros missiles. Et puis bon, c'est simplement un peu sur. On se prend un peu moins au sérieux, ça fait du bien. Mais évidemment, nous, on est un peu plus sur notre compte à soi. Alors, parfois, ça fait un peu grincer des dents. Voilà, mais en tout cas, ça fait du bien, ça fait sourire. Et puis peut-être qu'on se prend un peu moins au sérieux. Voilà, deuxième point, un surcroît de joie. Voilà, surcroît de joie. Alors, je me demandais un peu quelle image nous avions de l'Église. Alors, je me le disais pour moi aussi. Alors, on l'a dit ce matin, ça peut être un bercail. C'est bien un bercail. Mais là aussi, si on reste dans le bercail, ben, on va avoir des maladies. Hein. Faut, quand c'est le moment, sortir sur les verts pâturages. Et on y va. Ça peut être l'arche de Noé. C'est très bien l'arche de Noé aussi. Mais le déluge n'est pas éternel quand il se termine. Donc, faut que Noé, un jour ou l'autre, il descende de l'arche de Noé. L'Église, ça pouvait être aussi un porte-avions. Alors, un porte-avions, on a nos avions, et puis on va bombarder. Voilà, bombarder la vérité. Voilà, c'est, vous voyez que c'est quand même pas terrible non plus comme image. Alors, il faut aussi trouver justement l'image que veut nous suggérer François à travers tout cela. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'Église, c'est un lieu où se trouve la joie à une condition. C'est qu'elle soit en sortie. C'est qu'elle soit en relation. Hein, ça, c'est la condition de la joie de l'Église. Sinon, il n'y a pas de joie. Est-ce que je me fais comprendre, hein? Si l'Église reste à l'intérieur d'elle-même, la joie se perd. Si l'Église est en relation, si l'Église est en mission, alors il y a la joie. Et même, il faut aller plus loin. La joie va naître de la différence de potentiel entre deux pôles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si je vais annoncer la bonne nouvelle à des gens qui sont chrétiens, il y aura relativement peu de joie. Enfin, il y aura de la joie, mais si. Mais il faut que j'annonce la bonne nouvelle à des gens qui sont loin de la foi. Il faut que je me préoccupe de personnes qui sont dans la misère, si moi je suis dans l'aisance. La différence de potentiel. Il faut que je m'attache aussi à des gens qui sont pécheurs, si moi j'essaye d'avoir une vie droite. À chaque fois que je recherche le même que moi, la joie s'éteint. Elle va augmenter à chaque fois que la différence de potentiel augmente. Est-ce que je me fais comprendre, hein? C'est-à-dire que c'est un principe de différence de potentiel. C'est pour ça que je pense qu'on pourrait dire que l'Église est comme une espèce de courant électrique, si vous voulez. On va aller au palais de la découverte. Alors, pour qu'il y ait une étincelle, il faut qu'il y ait un pôle moins et un pôle plus, et puis que ça jaillisse entre les deux. Hein. S'il y a deux pôles plus, il n'y a pas d'étincelle. Hein. C'est quelque chose dont on fait l'expérience, ça, je vous assure. Quand on va annoncer la bonne nouvelle à des gens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qui ne sont pas de notre monde, etc., ben là, on retrouve vraiment la joie. Avec quelques frères, dont frère Sébastien, puis frère Christophe, on fait partie du patronage. Alors moi, j'ai trouvé des ados qui ont entre 10 et 14, 15 ans. Hein, c'est sportif aussi. Hein. Je crois qu'il y a une certaine différence de potentiel, parce qu'ils nous, nous dérangent un peu quand même. Hein. Mais vraiment, on revient heureux, parfois exaspéré, mais assez souvent heureux quand même. Et ça, c'est très important. Et aussi, c'est quelque chose qui est important aussi quand, quand on voit que l'Église va au plus loin pour chercher le plus pauvre. J'ai travaillé pendant un mois avec les frères missionnaires de la Charité à Paris, dans le 15e, ils sont, hein, rue Violet. Et c'est magnifique l'intuition de Mère Thérèse. C'est qu'on va aller chercher le plus pauvre. C'est pas simplement le pauvre, mais le plus pauvre. Et concrètement, on va le chercher loin. Nous descendions dans les souterrains, là où sont... ou dans les parkings, mais c'était impressionnant, c'était ces souterrains qui sont ces voies rapides sous Paris, où dans une espèce de plateforme centrale, il y a un petit espace abrité et chaud, et on voyait des gens là, dans une détresse terrible, drogués au plus haut degré. C'était leur seule façon de survivre. Et cela, on va les chercher, parce que c'est ça l'Église. Et cette différence de potentiel, je crois que profondément, elle produit la joie. Ça, ça c'est quelque chose de très important. Alors, se dire, voilà, où est-ce qu'elle est, moi, ma différence de potentiel, hein? Voilà. Un surcroît, autre point, un surcroît de foi. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'important, hein? C'est que on a aussi une image un petit peu déformée de la mission. On va être diplômé en mission, un master en mission, et puis ensuite on va y aller. Hein. Voilà, au moins le master, sinon le doctorat. Hein. Doctorat d'État, c'est mieux encore. Voilà, alors peut-être qu'à partir de 75 ans, on pourra peut-être évangéliser, hein, parce qu'on aura tous nos diplômes. Voilà, alors on ira. Et ben voilà, on prend les choses à l'envers. Parce que c'est la mission elle-même qui nous fait comprendre et qui fortifie la foi. La mission est un lieu théologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand j'annonce la foi, je la comprends. Je peux vous dire que j'en fais l'expérience, très souvent. Qu'on a des intuitions quand on évangélise qui nous sont données par l'Esprit-Saint. Et c'est la parole de Dieu qui le dit lui-même. Vous n'aurez rien à préparer pour votre défense. Parce que c'est l'Esprit lui-même qui vous inspirera. Que c'est important. C'est-à-dire que quand on évangélise, on se met en position d'être instruit par l'Esprit lui-même. Et à ce moment-là, l'instruction de l'Esprit, elle est parfaitement adéquate. Elle est parfaitement profonde et adaptée à la situation à laquelle on est confronté. Donc ça, je crois que c'est très important aussi. Et le Saint-Père le dit... voilà, ben, t'as peut-être une foi peut-être un peu vacillante, mais n'attends pas d'avoir une foi solide, complètement solide pour y aller, vas-y. Je vous lis le numéro 11 que vous avez aussi sur vos feuilles. Une annonce renouvelée dans nos croyants, même à ceux qui sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice. En réalité, son centre ainsi que son essence, sont toujours les mêmes de Dieu qui a manifesté son amour immense dans le Christ mort et ressuscité. Voilà. Et il termine par la citation d'Isaïe. Ils renouvellent leurs forces, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Ça, c'est magnifique, extraordinaire. Hein, méditons ces versets. Hein, c'est, si on devait retenir qu'une chose, c'est ça. Hein. Et plus je cours dans la mission, plus je suis nourri. Plus ma foi est forte. Voilà. Donc, c'est très important de pouvoir vivre de cette dimension de la mission. Voilà. Pour renouveler sa foi dans la mission. Et je pense que vous en avez fait l'expérience. Alors, concrètement, ben... Concrètement, ça peut être aussi des expériences un peu difficiles. Hein. Je ne peux pas le dire. Une fois, je me souviens quand j'étais justement à l'IUFM, hein, un prof de psycho qui était évidemment complètement athée. Donc, alors qu'il a fait une sortie, c'était le moment où l'Église catholique avait sorti son catéchisme. Et donc, l'Église opprimante qui nous assène ses vérités, qui nous empêche de vivre. Alors moi, j'étais sorti au créneau, monté au créneau pour défendre. Puis, je peux pas dire que bah, lui, il était quand même plus intelligent que moi. J'avais pas les armes. Bon, je suis resté un peu court. Faut reconnaître que de temps en temps, c'est ça. Mais pour moi, c'était fondateur. Parce que j'avais accepté de risquer mon image de marque pour le Christ. Et voilà, c'est libérant. Mais voilà, peu importe, cette fois-ci, tu n'as peut-être pas eu la réplique exacte qu'il fallait. De toute façon, tu n'es pas là pour écraser les autres. Mais peut-être que d'autres, à partir de là, pourront réfléchir. Ça, c'est important. Peut-être qu'on n'est capable que dire ça. Hein. Et puis, en même temps, ça nous invite à nous former. Parce que, justement, la petite voix de l'Évangile et de l'Esprit-Saint... Ben, faut reconnaître que dans bien des cas ça se passe, et puis dans quelques cas ça se passe pas. Donc, voilà, ben, c'est pas grave. Hein. Mais on a fait l'expérience, comme on dit en espagnol, de poner la cara, c'est-à-dire qu'on pose le visage pour le Christ. Celui qui ne rougira pas de moi devant les hommes, je ne rougirai pas de lui devant mon Père. Et celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père. Voilà, il faut faire cette expérience, hein, de cette phrase du Christ. Voilà. Et puis, toujours quelque chose d'important, l'Église est la grande tentation de savoir tout sur tout. Alors, quand parfois l'Église est un peu courte, bon, voilà, je crois que c'est parfois peut-être une petite humiliation qui nous fait du bien. Hein. Justement, c'est une des grandes richesses du cours alpha, c'est qu'on va laisser les autres s'exprimer avant d'asséner la vérité. Donc, voilà, vous parlez, vous essayez de résoudre vous-même votre difficulté. Parce que ça, c'est une tentation de tout résoudre par la vérité. Voilà, on est dans la plénitude de la vérité, voilà, donc tout va bien pour nous. Je terminerai avec cette mission, justement, comme cette mission avec ce surcroît, cet effet rétroactif. Alors, un quatrième point, on va se mettre au service d'un dynamisme qui nous dépasse.
Donc, le dernier point, pour aujourd'hui. Ça va être bon.
Au service d'un dynamisme qui nous dépasse. Qu'est-ce que je veux dire par là, hein, pour la mission? C'est que le premier évangélisateur, c'est Dieu. Il a besoin de personne pour évangéliser Dieu. Le Christ, il est tout puissant, hein. On est tous d'accord. Donc, c'est qu'il va avoir besoin de nous. Mais quel honneur d'être au service du Christ. Si le président de la République nous demande de collaborer, peut-être que ça sera un honneur, peut-être pas, je laisse à chacun de juger en son âme et conscience. Hein. Mais en tout cas, si un grand semon nous demande de travailler avec lui, quel honneur, hein. Ah, l'évêque m'a demandé de travailler avec lui, le Saint-Père m'a demandé de participer au prochain congrès de je ne sais pas quoi, de Philadelphie ou je ne sais pas où. Quel honneur. Quand même, je ne suis pas n'importe qui. Et rendez-vous compte que c'est Dieu qui vous demande ça. C'est encore mieux. Et il demande à chacun. Et donc, ça ne peut que réveiller en nous une fierté, une énergie, un honneur qui nous donne une espèce d'enthousiasme, voilà, qui est à toute épreuve. C'est très important, ça aussi. De voir que le Seigneur a voulu avoir besoin de nous et qu'il nous associe à son œuvre. Et que non seulement il nous associe à son œuvre, mais il nous associe à sa force, qui est la force de l'Esprit. Alors, c'est ce avec quoi je voudrais terminer. Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, numéro 12, hein, que vous avez, ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle héroïque, puisque l'œuvre est avant tout la sienne, au-delà de tout ce que nous pouvons découvrir et comprendre. Jésus est le tout premier et le plus grand évangélisateur. Dans toute forme d'évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son esprit. Or là aussi, je pense que c'est une expérience qu'on peut faire. De voir que, je ne sais pas, vous avez eu un enfant au catéchisme, Vous avez galéré, vous avez eu des difficultés avec lui parce qu'il était vraiment pas sage. Et puis 20 ans après, il me dit « Ah, je me souviens de telle parole que vous m'avez dite. Ben, ça, vous savez, ça m'a aidé. Et puis maintenant, je me marie à l'église et tout parce que voilà. » Parce que vous avez semé, ça a grandi. Parce que le dynamisme ne venait pas de vous. Il venait de la semence qui est divine. Hein, voilà. Donc, vous vous mettez au service d'un dynamisme qui ne vient pas de vous. Comme ça, c'est très important. Et c'est très encourageant. Et le Saint-Père développe ça en disant que c'est le dynamisme même de la parole. Ça sera ma conclusion, hein, pas allongée. C'est le dernier texte. La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. Donc, semons. L'Évangile parle d'une semence qui, une fois semée, croît d'elle-même, y compris quand l'agriculteur dort. Alors, on peut dormir aussi, de temps en temps, c'est pas interdit. L'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole qui est efficace à sa manière et sous des formes très diverses, telles qu'en nous échappant, elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. Ça aussi, je crois que c'est essentiel, hein, de voir qu'il faut oser cette parole parce que cette parole a une force en elle-même qui nous dépasse. Et nous, on n'est qu'un vecteur de cette parole, simplement. Voilà. Voilà un petit peu donc ce sur quoi je voulais insister. Donc, je reprends mon image. Hein, donc, n'hésitez pas à vaincre les pesanteurs, hein, qui sont celles de l'attraction terrestre, hein, de notre péché, hein, de notre pessimisme peut-être ambiant, de tout cela, hein, comme la fusée dont je vous parle au début. Hein. Et puis mettez-vous sur orbite. Voilà. Et là, vraiment, on pourra transmettre la bonne nouvelle comme un bon satellite, hein, si vous me permettez de filer la métaphore. Voilà, très bien. Alors maintenant, je suis à votre disposition pour les questions. Quand on est tout seul, c'est-à-dire.
Quand on a plusieurs prix,
oui. Oui.
Mais quand on est seul, on demande, est-ce qu'elle a autant de force?
Ben c'est pour ça qu'on confie des intentions les uns aux autres. Hein. Je crois que c'est ça qui est très important aussi. De retrouver ce sens-là, c'est que notre demande, si on a besoin de la partager. Et puis parfois, quand on est tout seul, ben justement, d'abord on peut demander dans la prière, ben donne-moi quelqu'un avec qui partager cela. Et le Seigneur saura le donner. Hein. Et puis petit à petit, voilà, il y a peut-être un germe. Alors, ce désir, Seigneur, donne-moi une petite communauté. Voilà. Et puis, 2-3 personnes, simplement. Et voilà, ben, peut-être qu'on ira une dizaine de chapelets chez l'un ou chez l'autre, ou peut-être qu'on aura un engagement de prière en commun à avoir. Hein. Mais je crois qu'il faut être créatif, hein, ne pas hésiter. De toute façon, le Seigneur, il écoute très bien, parce qu'on prie toujours avec toute l'Église, on n'est jamais tout seul. Hein. Donc, c'est important. Confiez-la à Marie, confiez-la au Saint, votre prière, je crois que... et puis, parfois, il y a des choses qui sont trop intimes pour qu'on puisse les confier aussi. Donc, il y a des intentions qui sont de cet ordre-là. Mais si ce n'est pas dans ce cadre-là, il ne faut pas hésiter, justement, à confier les intentions, hein, ce que vous avez fait, certainement... Et puis c'est la raison des groupes de prière, c'est la raison de... Nous, on voit ce petit espace que nous avons dans notre office pour pouvoir confier cela, la petite prière que nous avons après, le repas aussi, où on confie les intentions, les frères les uns aux autres, etc. Je crois que ça vivifie beaucoup une communauté. Oui. Ben après, je crois qu'il faut du discernement dans chaque cas. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en binôme. Mais il faut leur laisser faire cette expérience, peut-être. D'abord, s'ils le veulent bien, hein, parce qu'il ne faut pas leur mettre la pression. Mais il faut vraiment être avoir beaucoup de discernement, quand même. Extrêmement prudent. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans le Saint-Père, mais c'est un grand politique aussi. Hein, donc, ne pas l'oublier, quand même. Donc nous aussi à leur voir, mais je crois que le système du binôme est bon. Je vois encore une fois les jeunes que j'avais à l'école d'état où j'étais aumônier là. certains étaient assez tièdes, voilà, au début, ou ils sortaient juste de la drogue, ou des choses comme ça, voilà, etc. Mais comme ça les a changés, comme ça les a changés de... Alors, là aussi, quelque chose de très important, peut-être pas l'évangélisation directe, mais les à côté, c'est-à-dire la logistique, voilà, tout ça, le service des tables. Par exemple, Alpha, c'est ce qu'ils font aussi. Alpha, ben, viens, tu vas préparer le repas. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont dans Alpha, là. Oui, je sais pas. Je vois aussi que ça, c'est très important de permettre que la personne donne quelque chose pour l'évangile, pour la cause de l'évangile. Par la parole, peut-être, mais par bien des aspects matériels, très souvent. Et ils ne sont pas du tout contre. Et parfois, des gens qui n'ont pas la foi le font, et ils n'auront jamais la foi, entre guillemets, mais ils auront été très contents de réparer quelque chose dans la sacristie de l'église, ou voilà, de réparer un robinet, voilà, voilà. Et bien, ça leur sera compté au jour du jugement, voilà, très certainement. Oui.
Oui, moi j'aurais aimé, j'ai une question, mais j'aurais aimé commencer par apporter un petit témoignage par rapport à ce que vous avez dit sur quel est mon apostolat, mon lieu, je crois, être un évangélisateur.
Oui.
Et ma question va venir après. En fait, moi je fais des spectacles d'opérette.
Oui.
Et un jour, une personne qui chantait dans le spectacle m'a dit, je fais de l'évangélisation de rue, mais quand je suis sur scène, j'évangélise aussi. Elle s'est rendue compte de ça. Parce que dans ce qu'on faisait, on transmettait de la joie et de la communion. Et du coup, justement, moi je me questionnais sur cette question de l'apostolat par rapport à la parole des talents. Et je me suis dit, en fin de compte, dans ce lieu qui n'est pas un lieu religieux, voilà, où je travaillais avec des gens, du coup, ils étaient complètement dans l'église, on transmettait quelque chose qui a un sens, alors c'est là où est ma question, était quelque chose de l'ordre de la communion et pouvait ensuite permettre à ces gens, après, après avoir vécu cette joie, et cette communion de se tourner vers des réalités plus spirituelles. Et du coup, et même à certains moments, certains d'entre nous ont vécu des grandes souffrances, et d'une certaine manière aussi, elles ont été un petit peu, comment dire, offertes, enfin moi en tout cas, évidemment, dans les spectacles que je faisais. C'est de cette manière-là que je transmettais cette joie. Et du coup, je me suis dit, il y a des lieux, voilà, parce qu'à l'époque, je pensais que c'était uniquement dans l'église qu'on pouvait organiser, que c'était très important vraiment de faire du café, des choses comme ça. Et je ne me sentais pas du tout faire ça, voilà. Et j'avais vraiment envie, comme vous disiez, de rencontrer des gens éloignés, différents de nous, etc. Et donc voilà, est-ce que c'est, j'allais dire, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que pour vous c'est aussi effectivement un moyen d'évangéliser ou est-ce qu'il faut toujours être vraiment dans un service uniquement d'église?
Ben, je crois qu'il faut avoir des idées assez claires sur la question, à savoir quel est le processus de l'évangélisation. Donc, il y a le Père Neuf, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est très intéressant, c'était un prêtre ouvrier qui a fondé sa mission ouvrière à Marseille en pleine guerre. Là, c'est un type extrêmement cultivé et en même temps qui a vécu vraiment cette rencontre profonde avec le monde ouvrier qui est très très intéressant. Donc il a un bouquin qui s'appelle « Comme s'il voyait l'invisible ». Il dit que le Christ a évangélisé de la manière suivante. 30 ans de présence, 3 ans de parole et 3 jours de sacrement. Voilà, c'est la proportion qu'il nous donne. Donc c'est intéressant. Autrement dit, partager les gens et témoin de ce qu'ils vivent, etc., c'est déjà une manière de vivre l'évangélisation, mais c'est être en chemin. Je crois que chacun a son charisme. Peut-être certains sont plus pour la parole, plus pour la présence ou plus pour le sacrement. Ça dépend de chacun. Le point final de l'évangélisation, c'est la participation à la table eucharistique. C'est ça. Il faut bien voir tout l'arc de l'évangélisation. C'est ça. Mais cela dit, je suis absolument d'accord avec vous, et j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, que l'art est vraiment un lieu où nous vivons une expérience spirituelle, que tout ce qui est beau élève l'âme et nous rapproche de Dieu. C'est absolument. Et justement, l'humour, etc., ça c'est très important. C'est un grand service qu'on peut rendre à la société. J'en suis vraiment intimement persuadé. Et puis, l'art, en même temps, fait tomber les barrières dans le cœur. Donc, c'est vrai qu'aussi, petit à petit, on peut acheminer vers, quand c'est le moment, mais un art chrétien. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très beau. Dimanche dernier, nous avons un magnifique concert, justement, un groupe qui fait de l'opéra, de l'opérette, et puis aussi des chants sacrés, dont ils ont fait un récital de musique sacrée avec 10 chanteurs. C'était très très beau. parce que à ce moment-là, on voit aussi que la foi peut être source de beauté. Voilà. Donc, mais je pense que l'étape est très importante. Cette étape-là est très importante. Et il faut essayer de voir tous les lieux où on peut vivre justement un art saint. Parce qu'on sait bien qu'il y a des arts qui ne sont pas très saints aujourd'hui. Malheureusement, ce qu'on expose au château de Versailles, ben moi je ne suis pas très d'accord. Voilà, vous le savez bien. Ça fait bizarre quand même. Hein, voilà. Donc justement, avoir cette vision saine de l'art, c'est-à-dire une célébration de la vie et une célébration de celui qui donne la vie de manière implicite. Voilà, je pense que c'est la guerre de Dieu. Ça, c'est très important. Et alors, on le sent tout de suite. Il y a des œuvres qui vont être porteuses et puis des œuvres pas du tout. Moi qui ai plus étudié la littérature, ça se sent immédiatement quand une œuvre est entre guillemets perverse, mais une œuvre d'art, ça nous tombe des mains. Et puis d'autres œuvres qui peuvent être de communistes, de marxistes. Moi, je m'en souviens d'un bouquin magnifique de Jacques Roumain qui a écrit Gouverneur de la Rosée, qui est quelqu'un qui fait partie du Parti communiste et qui était aux Antilles. Voilà. Mais une œuvre d'une telle pureté, qui célébrait justement la recherche de l'eau dans un pays où il en manquait, qu'elle était tout entière parabole, et c'est des œuvres qui font du bien à l'âme, ça. Donc il faut un grand discernement là aussi, et avoir évangélisé sa sensibilité. Donc, parce qu'il y a des opérettes qui vont être bonnes, et puis d'autres qui vont plutôt rabaisser les choses. Donc là aussi, il faut un discernement par rapport à cela. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ça va? D'accord. Oui?
Quand évangéliser, ça a un effet repoussoir sur la personne qu'on a en face de soi. Je pense à mes frères qui ont claqué la porte de l'église. L'un parce que le jour où je demandais de faire ma confirmation à l'aumônerie, on m'a dit tu vas t'inscrire chez les adultes, tu as passé l'âge d'être avec tes copains qui sont devant moi. Et l'autre qui dit moi je veux faire ma petite religion à moi dans mon coin. Deux belles-sœurs qui sont charmantes, mais qui l'une voudrait aller à l'église, mais c'est pas parfait de comprendre la chose, et mais physiquement loin d'elle, à la distance, donc on ne peut pas l'accompagner. Une autre qui elle aussi a claqué la porte de l'église avec air de fracas, et en gros, quand j'arrive, et une dernière sœur qui effectivement me dit moi, je suis malade et quand je suis allée voir l'église, on ne m'a pas reçu, on ne m'a pas écouté. Maintenant, je ne veux plus entendre parler de l'église. Alors moi, je suis pour eux, je sais quoi. Enfin, je veux dire, bah,
Je crois qu'il faut respecter la blessure. Je crois qu'il faut tenir en compte de l'état de l'affectivité dans laquelle elle est, donc une affectivité blessée par rapport à l'église. Je crois que prier régulièrement et comme une petite goutte d'eau, ça c'est très important, hein, parce que ça vint malgré tout des résistances à la longue. On en fait tous l'expérience, parfois le bon Dieu a l'air d'exaucer complètement à l'envers aussi nos prières, bon, ça arrive ça, donc, mais il faut continuer, parce que le bon Dieu ne se laissera jamais vaincre en générosité. Hein, donc il faut continuer, souvenez-vous quand même de tous ces grands exemples, de Sainte Monique, etc. Il faut y aller jusqu'au bout. Rien de votre prière ne sera perdu de toute façon. La personne a toujours sa liberté, peut-être qu'elle ne se convertira pas, qu'elle ne retournera pas à l'église. Mais petit à petit, on arrive à se décentrer un petit peu d'une unique intention qui était la conversion de telle et telle personne à adopter le projet de Dieu. Ben, le projet de Dieu, c'est peut-être un peu différemment. Ben, peut-être qu'elle accepte que cette personne-là ne retournera jamais à l'église, malheureusement, mais on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur, etc. Et puis, ce grand respect. Je pense qu'effectivement, parfois, on est un peu insistant. Donc, non, on n'insiste pas. On le dit une fois, voilà, puis on se retire si on voit que ça a un effet contre-productif. Donc, ça, je crois que c'est important. Mais moi, dans ma famille, je vois que j'ai deux exemples. J'ai une prière constante, mais qui a fait des merveilles. Et puis une prière constante qui aboutit à tout contraire. Voilà, bon, ben, c'est très douloureux dans le deuxième cas. Hein. Mais en tout cas, je crois que le Seigneur ne perd aucune de nos prières. Et puis, vous le dites très bien, c'est pour ça que le Saint-Père y insiste tellement. Dès que l'Église est un peu forteresse, elle devient dure. Elle devient dure, on met des structures, va aller avec le groupe des adultes, parce que non, le bien des âmes est premier. Alors, évidemment, il ne faut pas tout bouleverser, mais il faut être un peu intelligent. Donc, tu suivras avec nous cette année, puis l'année prochaine, tu seras confirmé, puis voilà. Mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas cette intelligence pour telle ou telle raison, ou peut-être que ce n'est pas possible, mais nous, en tout cas, sans accuser personne, on a ce devoir d'avoir cette souplesse, de voir un petit peu comment on peut faire. Et puis, en confiant des choses à la Vierge Marie, bien des choses se dénouent quand même. N'hésitez pas. En Argentine, pardon pour la cite encore, mais on aime beaucoup la prier comme la Vierge Marie qui défait les nœuds. Dieu sait s'il y a des nœuds qui sont dans nos vies, donc voilà. Oui. Oui. Nul n'est prophète dans son pays, oui. Comment ? Dans sa famille, oui. Oui, c'est vrai et c'est pas vrai. Non pas qu'on dise que le Seigneur se soit trompé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est pas au nom des liens de la chair qu'on va être prophète. C'est-à-dire qu'on va retrouver les autres comme des étrangers d'un certain côté. Il faut les retrouver par un autre chemin. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que il faut prier pour... Ça dépend. Parfois, on a des liens privilégiés avec nos frères et nos sœurs qui favorisent cette évangélisation. Et puis parfois, il y a tout le vécu à la maison dans des années où on a été un peu comme chien et chat. Alors, écoute-toi, ta foi, j'en ai rien à faire. Tu m'as déjà cassé les pieds avec ta musique pendant 20 ans maintenant. Alors voilà, c'est un peu parasité comme message. C'est sans doute ça que ça veut dire un petit peu. Donc, je crois que là aussi, il faut tenir compte des circonstances. Mais on peut être prophète dans son pays, bien évidemment. Et quand on ne peut pas l'être, il faut prier pour que quelqu'un se mette sur le chemin de nos frères ou de nos sœurs. Mais voilà, un petit peu. Oui. Mais ce qui est important, je crois qu'on sera prophète vraiment de manière silencieuse, parce que moi je vois dans ma famille, c'est la manière que je peux l'être, c'est que voilà le témoignage de vie, et puis à force les gens vous posent des questions. Qu'est-ce que tu en penses là, de mon choix de vie? Qu'est-ce que tu crois? Puis là on témoigne, mais on attend que les gens nous posent des questions. Voilà.
Je vais dire par rapport à ce que la dame a dit, je pense que la constance dans la prière, c'est très très important, et que même si on a l'impression que le Seigneur ne répond pas à notre attente, on a tous un grand prier pour la conversion d'un gendre, on ne sait pas les fruits que ça va porter, on ne sait pas quand ça va les porter, mais moi ce que je peux dire, c'est que ça donne la joie.
Oui.
Et que du coup, la joie, par contre, les gens, ça les interpelle. Parce que quand moi, par exemple, avec tout ce que je vis en ce moment, et qu'on me demande comment je fais pour avoir la joie, toujours, il y a même un père de... Père Christian qui m'a envoyé un petit message en me disant comment tu fais pour avoir la pêche, parce qu'en ce moment mes frères au prieuré ils ont moins la pêche que toi. Donc, je suis convaincue que la prière personnelle ou en communauté donne la joie, et la joie c'est une évangélisation, parce qu'on n'est pas tous appelés à aller faire d'évangélisation de rue, mais il y a plein d'autres façons d'évangéliser, et la joie c'en est une.
Tout à fait. Ça va ?
Bon.
Oui ?
Oui, super.
Je m'en aussi avec des témoignages de jeunes musulmans, pas forcément des jeunes, des nouvelles grands convertis, qui ont aussi montré leur joie et qui nous ont introduit des romans musulmans à toutes les difficultés qu'ils avaient.
Oui.
La joie d'avoir découvert notre religion.
Exactement, oui. Alors ça, je crois que c'est vrai que c'est très important. La religion, parfois, on la redécouvre quand d'autres cultures ou de mondes complètement différents voient quel trésor elle constitue. Ça, j'en suis persuadé. Oui, absolument. Ça, c'est très, très important aussi. Ouais. Et ça, je pense que c'est, entre guillemets, un des signes de notre époque. Hein, que, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec l'islam? Alors, c'est terrible et en même temps, c'est plein d'espérance. Ah bon, oui, oui, je pense que de toute façon, la bonne nouvelle est pour tous, hein, ça, c'est sûr. Hein. Alors, c'est sûr. Alors, avec prudence, évidemment. Mais en tout cas, il faut les accueillir quand ils se convertissent. Ça, c'est sûr. Et on sait bien que c'est pas si facile que ça. Ça va. Bon, mais écoutez, très bien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Avec plaisir.